Et c'est l'association Littéra 05 que vous connaissez sans doute qui a invité Fanny parce qu'elle est dans les sélections de nos livres nomades cette année. Nous l'avions choisie par rapport à notre thème qui était un lieu, une histoire. Et son livre correspondait à ce thème-là et on l'avait beaucoup aimé. Donc c'est pourquoi nous l'avons invité. Elle a bien voulu répondre présente.
Merci beaucoup de l'invitation.
Donc on va commencer.
S'il y a encore des personnes
bien qui sont merci fond, pour votre présence. Donc, merci.
Juste un petit rappel pour les gens, essayez de parler un petit peu plus.
Ah, moi, je ne pourrais pas, hein, je suis malade.
Donc, voilà que j'accueille-moi.
Je ne pourrais pas pour les gens. Donc, il vaut mieux que les gens s'approchent. Donc, est-ce que vous m'entendez là?
Oui.
Oui. Bon, alors. Donc, merci de votre présence. Merci à la Noël Libraire de nous accueillir. Merci à Fanny Saint-Ouen d'être venue jusqu'à Gap, ce qui n'est pas une mince affaire, pour nous présenter, parler de son dernier roman. Je vais essayer de vous la faire mieux connaître, donc Fanny, et également de vous plonger au cœur de son roman, que vous aurez peut-être lu ou pas, suivant que vous suivez les villes nomades, et si vous avez déjà pu vous le procurer. Ensuite, en fin de séance, on pourrait évidemment poser des questions, acheter le livre donc, qui vous sera proposé et le faire dédicacer par Fanny. Après, si vous le souhaitez, vous savez que nous avons prévu un buffet convivial, donc voilà. Mm-hmm. Donc, vous pouvez participer et peut-être poser d'autres questions ou échanger sur le livre. Donc, Fanny Saint-Ouen, vous êtes née en 1971, vous vivez à Paris, et après un solide cursus littéraire, vous devenez professeur de français, langues étrangères, puis responsable d'un centre d'apprentissage des langues de la Cité internationale universitaire de Paris. Mm-hmm. J'ai vu que vous vous lanciez un moment dans l'édition, je ne sais pas si c'est vrai.
Moi, j'étais employée pour une société qui faisait les sites de certains éditeurs.
D'accord. Et en 2006, vous avez rejoint le cabinet du maire de Paris.
Oui.
Vous avez travaillé au service des relations internationales. Aujourd'hui, vous vous occupez un poste à Paris Musée, c'est ça?
Non, c'est dans l'autre sens. Mais c'est pas grave.
Voilà, sur Internet, on trouve de tout. Voilà.
En gros, j'ai travaillé longtemps et je travaille toujours à l'Hôtel de Ville.
Ah, vous travaillez toujours à l'Hôtel de Ville. Et vous écrivez aussi des poèmes, je crois.
Oui, ça m'arrive, mais pas assez pour faire un recueil, malheureusement.
Voilà, donc on voit un parcours extrêmement éclectique. Hein, donc on pose une question. Comment vous vous définissez, Fanny Saint-Ouen, littéraire, femme politique, artiste?
Alors, femme politique, certainement pas, absolument pas. Moi, dans mon travail, je suis vraiment une petite main. Donc j'aide plus ou moins le politique ou en dessous à faire le travail le mieux possible. J'arrive pas trop, mais bon, on va pas parler de ça. Non, je suis plutôt une écrivaine, mais encore en devenir. Mm-hmm. Voilà, à chaque livre, on devient un peu plus un écrivain.
Donc, on va parler de la bibliographie, justement, ouais. Pour comment on arrive à écrivain. Donc, premier roman, juste avant, publié en 2011 chez Flammarion. Votre texte figurait déjà en 2007 parmi les 5 finalistes d'un concours de manuscrits.
Oui.
Et ce serait bien que vous nous parliez de ce parcours un peu qui semble assez long pour arriver à publier.
À ça
et qui après a rencontré un très, très large succès public et
c'était un chemin, ce premier roman, c'était un chemin vraiment complètement désespérant, chaotique, puis complètement la princesse, l'autoroute, le tapis rouge, tout qui s'ouvre comme ça. Donc j'ai rien compris, mais c'est pas grave, parce que j'ai essayé d'écrire ce livre pendant 10 ans, en l'abandonnant, le reprenant, etc., en envoyant des lettres à tous les éditeurs de France et de Navarre, et même au Québec, enfin bref, sans arriver jamais à rien, parce qu'à chaque fois on me disait, Ouais, c'est bien écrit, mais franchement, c'est l'histoire d'une vieille dame qui est en train de claquer. Alors pour vendre ça, ça va pas être facile. Bon, ok. Et finalement, à un moment, il s'est trouvé que j'ai rencontré Daniel Pénac dans une pizzeria à Paris, au Père Lachaise. J'avais beaucoup d'admiration pour ce... Enfin, j'en ai toujours, d'ailleurs, pour ce monsieur. Et je n'ai pas osé lui donner. J'ai laissé mon manuscrit au pizzaïolo. Parce que je savais qu'il venait là tout le temps. Le monsieur des pizzas me l'avait dit. Et puis, en fait, le mec a oublié mon manuscrit. Donc, 3 mois plus tard, je reviens. Et là, le pizzaïolo me dit... Oh, merde, j'ai oublié ton manuscrit. Mais il me dit, regarde, il est là, cette fois on lui donne maintenant. Donc il lui donne, moi je voulais pas déranger, j'avais trop peur. Et d'un seul coup, j'ai reçu un grand coup de derrière la tête. C'était Pénac qui me tapait la tête avec mon enveloppe et qui me dit, comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Je dis, bah, je voudrais que vous le lisiez et que vous m'aidiez à faire publier. Où il a bougonné, il est parti manger ses raviolis, et puis voilà, je me suis dit, bon... Moi, je suis très bouteille à la mer, ça, j'ai aucun problème avec la bouteille à la mer. Je suis rentrée chez moi, je me dis, oh, c'est rigolo, comme... et puis j'ai oublié, en fait. Et 4 heures après, j'ai reçu un mail comme ça, de Daniel Pénac, qui était complètement enchanté, emballé. Bon, pour moi, c'était la plus belle récompense, en fait. Après ça, c'est comme s'il m'avait mis l'épée, là, comme les chevaliers, en me disant, vas-y, mon petit, tu peux continuer. Et après, il m'a aidée, parce qu'il m'a offert des... Alors, par contre, les éditeurs en avaient strictement rien à foutre que je sois soutenue par Daniel Pénac ou pas. Ça les a pas... Ça leur a fait absolument aucun effet. Mais lui, il m'a offert des séances de travail, vraiment... super généreusement, on s'est vu 3 fois, où il me faisait travailler mon texte, mais sans qu'on travaille. C'était une discussion, comme chez le psy. Il me disait des trucs, il me disait pas, faut faire ci, faut faire ça, faut couper ci, faut nanana. Non, il me parlait, et je devais vaguement faire ma sauce après. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que même avec Pénac dans la poche, que dalle. Et finalement, c'est quand j'ai annoncé à pas mal de copains que j'abandonnais, que j'en avais ras-le-bol de cette histoire et que je laissais tomber, qu'il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais je vais le relire, ton truc. » Et 6 mois plus tard, j'étais seul premier roman de la rentrée de septembre de chez Flammarion, sélectionné prix Fnac, prix Virgin, je ne sais plus quoi. Enfin, en gros, j'ai fait la route pendant 2 ans. Et en fait... Tout ce qu'on m'a dit sur c'est l'histoire d'une vieille qui est en train de claquer, ça va plaire à personne, je n'ai reçu que des trucs. En fait, personne n'avait pensé, ben, moi la première, hein, que tout le monde a une grand-mère ou une arrière-grand-mère, en gros. Et donc j'avais des gamines de 15 ans qui m'écrivaient en me disant « Oh là là, j'ai adoré, je vais téléphoner tout de suite à ma grand-mère, parce que si jamais elle claque la semaine prochaine, j'aurai trop de regrets, etc. » Et en même temps, je recevais des lettres de vieilles dames en maison de retraite, comme l'était mon personnage, qui m'écrivaient. Alors moi, au début, je me suis dit « Ouh là là, parce que je suis pas très tendre dans ce livre avec cet environnement-là, et la vieillesse, et l'approche de la mort, et tout. » Et en fait, ces dames, ou ces messieurs d'ailleurs, m'écrivaient « Merci beaucoup, on ne parle jamais de nous. » Donc, voilà, ça a été retournement de situation total. Et ce premier moment, j'ai bien fait de profiter de l'autoroute tapis rouge, parce qu'après, c'était plus du tout aussi facile
Donc,
que
après,
ça.
Oui. Après, on passe au second. Et le nom de ce premier roman?
Oui, juste avant.
Juste avant.
Ouais. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça m'a énormément aidée dans le cadre d'un deuil, effectivement. Je trouve qu'effectivement, c'est une vieille dame qui va mourir. Mais en même temps, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de...
Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Ça m'a aidée, voilà. Moi, pour accompagner tel ami, le deuil de ma mère, ma grand-mère. Voilà.
Enfin, c'est un sujet très original pour un premier roman. Donc ensuite, alors après, vous avez publié 4 en 2013. Les notes de la mousson en 2015. Plus récemment, j'ai dû vous croiser dans Paris en 2019, qui a eu le prix des sociétés des gens de lettres, du recueil de nouvelles. Et enfin, Les clés du couloir en 2023.
Oui.
C'est bon, là, j'ai tout.
Oui.
Ce qu'on remarque, c'est que les créations sont très diversifiées par la forme. Parce qu'il y a des ouvrages à quatre mains, il y a une nouvelle, roman.
Ouais, voilà, moi j'aime bien explorer. Alors je pense qu'on retrouve une façon d'écrire, un ton, peut-être une certaine intimité ou douceur, je ne sais pas trop comment dire. Nostalgie aussi, il y a des choses qui restent, mais j'aime bien expérimenter différentes formes et aussi différents thèmes. Le livre sur la vieille dame qui est mon arrière-grand-mère, je voulais l'écrire depuis toujours, en fait, depuis que j'avais 15-16 ans, sans savoir bien sûr que je le ferais. Le livre sur l'Inde qui s'appelle Les notes de la mousson, c'est pareil, je l'avais dans la tête depuis très 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 longtemps. En fait, moi je suis super lente. Donc j'ai une idée de livre à 16 ans, je l'écris à 40. Après, j'en ai une deuxième vers 22-23, je l'écris à 43 ou 4. Voilà, c'est depuis peu que ça va plus vite. Donc,
ça s'accélère.
Heureusement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc le livre sur l'Inde, c'était très important, parce que c'est un pays qui a énormément compté pour moi. Le livre à quatre, c'est vraiment une histoire d'amitié. Celui-là n'était pas du tout prévu pour le coup. On est devenus très 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 amis avec trois autres primo-romanciers de la rentrée de 2011. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se voir énormément, avoir une excuse béton pour se voir beaucoup. On s'est dit, écrire un livre, c'est quand même la meilleure des excuses pour dire tous à nos familles, nos femmes, nos maris, je peux pas dimanche, j'écris avec mes potes, on a vraiment beaucoup de boulot. Bon, on a beaucoup bossé, hein, mais on a surtout ricané comme des saucisses pendant 6 mois. On a écrit vraiment très serré parce qu'à 4... On ne peut pas se dire pendant 3 ans on va se voir. Enfin, donc on a fait des séances de travail très intenses, longues, mais resserrées. Et là, c'était une toute autre expérience d'écriture. Écrire à quatre, c'est comme... on n'est pas du tout dans son tempo naturel, ni dans ses thèmes, ni dans ses... C'était très, très, très intéressant, comme un exercice, en fait. Et puis le recueil de nouvelles, j'avais pas le projet... mais j'ai commencé par écrire un tout petit texte sur un type qui était en bas de chez moi et puis je me suis prise au jeu. J'ai compris que je rentrais dans un format de nouvelle. Moi j'avais pas très peu de culture de la nouvelle, j'en lis mais je suis pas comme certains lecteurs ou certains auteurs qui ont vraiment tout le panel de l'écriture de la nouvelle, notamment anglo-saxonne évidemment et tout ça. Mais je sais pas, j'ai trouvé un petit truc qui me correspondait très bien, vite, c'était 3 pages, 2 pages et demie, 3 pages. Donc c'est le haïku de la nouvelle, tout petit. Et en fait, j'ai adoré ce format. Et après, quand j'ai eu le premier, j'ai assez vite compris que j'écrirais sur Paris. Et après, soit j'ai fait des puzzles entre un lieu que j'aime, un petit truc que je voulais raconter, une scénette... Soit après, je me laissais aussi, quand je me promenais dans Paris ou que j'allais faire un truc, j'étais pas là en train de regarder où est la prochaine scène de mon livre, pas du tout, mais je faisais mes machins, je me promenais, et d'un seul coup, je voyais quelque chose, parfois même dans la périphérie et comme ça, et d'un seul coup, je me disais, ah, toi, tu vas finir dans une de mes nouvelles. Mais des fois, elle venait 4 mois plus tard, c'était pas, je rentrais pas chez moi. Et ça, c'était aussi une autre expérience d'écriture. Et enfin, Les clés du couloir, c'était galère.
D'accord. Parce qu'il vous faut du temps apparemment pour écrire. Donc...
Non, mais parce que le sujet est noir.
Ah oui.
Que je l'ai arrêté plein de fois. Et à chaque fois, moi ça m'arrive très souvent de laisser un livre dormir pendant 3 mois, 4 mois, même plus. Ça me fait pas si peur que ça, je suis pas pressée. Et je trouve qu'après on a un œil très très neuf et en général un œil de ménage assez cruel mais vraiment intéressant. Et en plus au milieu il y a eu le confinement et tout le bazar. Et moi je dois être la seule quasiment qui n'a pas écrit une phrase pendant tout le truc parce que je me disais à quoi bon, enfin j'étais pas du tout en, je sais pas, j'étais pas du tout dans l'énergie, donc ça a encore reculé. Et finalement, j'ai trouvé quand même, j'ai quand même trouvé l'énergie de continuer et surtout de transformer un peu le livre pour réussir à lui donner un peu plus de lumière et de un peu de tendresse et un peu de donc ça m'a aidé à le à bien le finir et finalement à finir par l'aimer de l'écrire. C'est français ça ?
Aimer l'écrire. Mais alors quelle est votre inspiration justement pour ce roman ?
Ce roman, il vient de... C'est vieux aussi, encore le temps élastique. Il vient, en premier, il vient d'une grosse colère après les lois, après les réactions très violentes qu'il y a eu suite aux lois du mariage pour tous. Il y a eu des grandes manifestations dans Paris complètement hystériques sur ce sujet. Qu'on soit d'accord ou pas, en fait, c'est pas tellement le problème, c'est la nature des réactions qui m'a choquée. Et puis, en même temps, je sais pas si il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en souviennent, mais juste après, il y a eu tout un petit truc sur le genre. Il s'agissait d'enseigner trois trucs de genre, trois notions de genre à l'école. Le niveau, c'était les petites filles peuvent aimer les camions de pompiers, et les petits garçons peuvent aimer jouer à la coiffeuse. En gros, c'était ça. Hein. Ma fille de 3 ans, le niveau c'était ma fille de 3 ans quoi. Et là pareil, énorme truc, tous nos enfants vont finir homosexuels, travelo, machin, enfin bref. Jusqu'à ce que certains auteurs jeunesse soient attaqués. Attaqués sur les réseaux, menaces de mort quand même, hein, c'était pas juste, bon il n'y a pas eu d'attaque physique, mais dont un monsieur, je m'en souviens parce que j'avais le livre chez moi pour ma fille, ça s'appelait « Zazie a-t-elle un zizi ?»
Ah oui.
C'était une petite fille un peu bizarre qui aimait jouer au cow-boy, enfin bref. Donc tout ça m'avait foutu dans une rage folle mais froide, parce que je me mets pas beaucoup en colère. Donc c'est ça qui a mûri finalement et qui m'a donné envie d'écrire là-dessus, sur ce monde que j'ai imaginé complètement fermé, sclérosé, voilà. Et après il fallait que je trouve évidemment une entrée, donc j'ai trouvé cette femme qui est emprisonnée pour athéisme. Et ce livre, je voulais l'écrire avec un copain qui est écrivain, qui m'avait beaucoup aidée pour les notes de la mousson. Et du coup, je lui ai envoyé la première lettre, à peu près telle qu'elle est encore, d'ailleurs, d'accord, dans le livre, par la poste, sans signer, parce que je voulais qu'il me réponde et qu'on construise le livre ensemble. Donc déjà, il a ouvert la lettre, il s'est dit « qu'est-ce que c'est que cette folle qui m'écrit ?» Puis après, il s'est dit « ah bah oui, c'est Sainte-Noire, c'est normal ». Et puis en fait, il m'a dit mais en fait, je peux pas, c'est trop difficile de rentrer comme ça dans l'histoire de quelqu'un qui est déjà, t'as déjà bien le truc dans ta tête. C'est pas mon truc. Donc il m'a dit non. Et ce qui était intéressant, c'est qu'après, j'ai construit l'histoire avec ce refus, finalement. J'ai construit l'histoire de quelqu'un qui écrit des lettres à un mec qui lui répond pas.
D'accord.
Comme ça nous arrive, enfin moi ça m'est arrivé plein de fois, hein, en amour, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et je trouve que c'est un format très romanesque. Moi le coup de la lettre qui n'arrive pas, moi ça me tue dans les films, ou dans, je sais pas si vous vous souvenez de Cinéma Paradiso. Voilà, la lettre qui n'arrive pas, c'est atroce. Donc je me suis aussi servie de ça, et finalement... Ben, si le type lui répond pas, il fallait que je trouve quelqu'un qui prend en charge les lettres. Donc c'est là que je me suis mis à imaginer la petite Constance, la religieuse. Alors ça, c'est un truc qu'on retrouve toujours dans mes livres. Je sais pas si c'est parce que je suis complètement schizophrène ou je sais pas, ou bipolaire, j'en sais rien, je connais pas assez bien. Mais j'ai toujours deux voix, en fait. Il y a la vieille dame qui meurt et l'arrière-petite fille. Il y a le petit garçon indien et il y a la concierge à Paris. Et là, il y a Petra et la jeune religieuse qui va donc commencer à prendre les lettres. Pas trop dire si elle les transmet ou pas. Et après, il fallait que je trouve un moyen de la convaincre qu'elle porte les lettres. Et c'est là qu'est intervenue l'idée de... de ces chansons murmurées qui sont la raison pour laquelle elle va commettre cette erreur terrible pour le système, en tout cas, et pour elle, pour sa sécurité, toute sa construction mentale. Et là, c'est les... quand j'ai eu l'idée de ces paroles de chansons, donc je me suis fixée quatre auteurs pour lesquels j'ai une passion folle, qui sont Brel, Ferré, Barbara et Higelin. Une fois que j'avais ça, c'est bon, j'avais tout le truc pour construire l'histoire. Donc c'était... Mais ça s'est fait... moi, je ne suis pas du tout... Il y a des auteurs hyper organisés. Avant même d'écrire, ils ont un truc sur le mur, tableau Excel, machin, avec tel chapitre, tac, 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 les couleurs. Tout... Moi, je ne sais pas du tout faire ça. Je respecte ça beaucoup, hein, mais je construis beaucoup en même temps que déjà je suis en train de travailler et et d'écrire.
Alors, sur justement le genre, on est dans un genre qui est à la fois un peu ouvrage d'anticipation, un peu ouvrage politique. Mais généralement, les ouvrages d'anticipation, ils partent d'un monde très lointain, donc on peut inventer n'importe quel truc, alors que là... on retrouve des éléments de notre présent qui fait dire, mais c'est bientôt, c'est un futur très proche qui nous attend là, peut-être.
J'ai fait exprès, je voulais vraiment montrer, enfin, montrer, c'est un grand mot, mais. Je voulais expérimenter dans l'écriture de construire un temps comme ça qui est effectivement posé comme anticipation, dystopie et tout ça, et en même temps très très proche, très perceptible, très compréhensible malheureusement à nos oreilles avec tout ce qu'on voit et entend tout le temps. Mais ça, c'était un jeu très très subtil de placement, avec effectivement quand même quelques toutes petites touches de référence à quelque chose qu'on connaît. Et encore, j'en ai effacé beaucoup, et mon éditrice m'a beaucoup aidée là-dessus, en me disant, moi, je veux pas. Je veux que ça t'enlève, c'est trop... Ça nous remet trop, justement, dans le temps présent, dans ce que vous disiez
oui,
tout à l'heure.
Oui, mais justement, du coup, il est un peu plus dur quand même, un ouvrage d'anticipation. On dit, bon, voilà, il a inventé n'importe quoi, tandis que là, on se dit, mais oui, ça arrive.
On sent que c'est proche, mais j'ai quand même effacé des choses vraiment... par exemple, j'avais fait des références assez claires au 13 novembre. Finalement, je les ai enlevées.
Ah oui, d'accord.
Elle ne voulait pas, et finalement, je pense vraiment qu'elle avait raison, que les fils soient trop clairs sur notre temps passé juste
oui,
là.
C'était un rapport de
l'éditrice. Donc, c'était que... que des suggestions, et puis mais effectivement il n'y a pas de, c'est un futur, pas de, d'araignée géante, il n'y a pas de vaisseau spatiaux, il n'y a pas il n'y a rien quoi, donc je voulais qu'il y ait cette angoisse effectivement de la vache, ça pourrait nous tomber dessus assez vite. Et puis c'est vrai que depuis, quand on voit effectivement que du jour au lendemain on peut se retrouver enfermé chez nous, on n'a pas compris ce qui nous était arrivé, que la guerre en Ukraine juste à côté, bah c'est pareil, on se dit oulala, c'est très très proche quand même. Mais je souvent dans le livre je parle de plein d'événements comme ça, enfin pas précis, mais je me souviens de plein de moments où on s'est dit mais non, mais c'est pas possible, enfin c'est pas possible ça, et puis si, et puis en fait on fait rien, enfin on fait rien, on peut pas faire grand chose, on se sent extrêmement démunis. Mais il y a plein d'événements comme ça.
Vous voulez dire qu'en fait, ce futur-là, il est déjà perceptible dans votre présent, quoi.
Il est parfois perceptible, ou en tout cas... Mais je pense que c'était une façon d'écrire sur l'angoisse, en fait. Sur l'angoisse que ça procure. Et d'ailleurs, j'ai même des copines qui m'ont écrit ou téléphoné en me disant « Ah non, mais moi, ton truc, je peux... » franchement, ça ne m'a pas plu. C'est la première fois que ça m'arrivait. Une copine qui me dit ça en me disant « Mais ça m'a trop angoissée. » Parce que à chaque fois, je me disais « Ah, mais en fait, c'est sûr, ça va nous arriver. » je me suis dit « Au moins, elle y croit. »
D'accord.
Si elle,
oui,
si elle a peur. Donc, ça veut dire que ça marche.
Alors, on va peut-être évoquer le lieu où se situe l'intrigue. Donc, Simone va nous lire un petit passage qui nous situe l'endroit.
Page 51.
Vous regardez peut-être le coin de ciel bleu en vous demandant comme moi où nous sommes. Je suppose que vous ne savez pas non plus, cher ami. Impossible de se situer, de deviner une position géographique seulement avec un climat et l'odeur de l'air. Nous ne sommes pas si loin de chez nous et pas dans le sud. C'est tout ce que je peux avancer. Je crains que vous, de l'autre côté, n'ayez pas plus de vue que moi. Notre centre de détention est tellement grand qu'on n'atteint aucun horizon, même pas la cime d'un arbre à l'extérieur. Nous ne savons rien, ni dans quel pays nous sommes enfermés, ni pour combien de temps. Nous avons à peine compris pourquoi. Ces mystères épaississent l'angoisse, l'impression d'irréel, la perdition de nos esprits. Plus nous restons désorientés, plus nous demeurons inoffensifs. Ce camp est une prison grande comme la petite ville d'un film de cauchemar. Des bâtiments rectangulaires, séparés par des cours, elles-mêmes séparées par des barbelés. Chaque bâtiment abrite des locaux administratifs et des espaces communs. Une bibliothèque pauvre et entièrement dédiée aux écrits saints et religieux. Des salles de formation super équipées et des lieux de culte. Rien d'autre. C'est une prison grande, blanche et propre. Tellement propre que c'en est écœurant.
Voilà, alors dans notre choix de nomades, nous voulions situer effectivement nos romans dans un lieu. Donc là, ici, on est dans un lieu.
Un chouette lieu.
Hein, un chouette lieu. Chouette lieu. Parlez-nous de c'est ce maudit couloir. Donc.
Oui, j'ai imaginé ce lieu de détention voilà, qui devait correspondre à l'angoisse de ce monde que j'ai imaginé. Et je voulais... Je voulais qu'il soit assez neutre, en fait. Je voulais surtout qu'il soit loin de tout ce qu'on connaît sur le camp. En fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu la littérature, ce qu'on appelle la littérature de camp. Et évidemment, je voulais... Enfin, évidemment, non, mais je voulais m'éloigner vraiment pour pas toucher ou pour pas m'insérer là-dedans. Donc, d'écrire un lieu de détention très propre, très blanc, et complètement indéfini aussi. On ne sait pas quand on est exactement, on ne sait pas où on est. Et finalement, ça, ce qu'elle dit, c'est que ça renforce aussi l'effet d'angoisse, de rien savoir comme ça, de ne pas pouvoir se situer ni dans le temps ni dans l'espace. Et la seule chose qui la raccroche à la vie, c'est les mots et c'est les paroles de chansons.
Donc là, on parle de Petra, donc personnage principal, qui est emprisonnée parce qu'athée. Elle pense à sa famille, elle s'évade dans ses souvenirs pour supporter l'enfermement. Donc, Simone va peut-être nous lire à page 33, 34.
Là. D'accord. Donc Petra, elle fait ce qu'elle peut pour essayer de rester digne et d'avoir un petit peu d'espoir. Dans les moments les plus difficiles, je me réfugie au loin. Dans une bulle transparente d'images. Je suis en Espagne, les pieds dans l'eau, face à l'église San Bartolomeo. Je marche dans les dunes du Maroc chez mes amis berbères. Je touche une fougère humide dans l'allée d'une forêt immense et les feuilles dorées tombent sur moi par dizaines, comme si elles m'avaient choisi. Je mange un thieboudienne et le grand piment vert allongé au centre de la chair blanche du poisson me ravage la langue. Je m'assois dans le métro parisien et les gens sont de toutes les couleurs. Je suis attablée dans un jardin secret, entourée de lourdes grappes de lilas mauve et le printemps explose. Je suis au Serengeti et un léopard fait la sieste sur une branche. Je trempe mes pieds dans la mer gelée de Normandie et je chante à tue-tête. C'est fini la mer, c'est fini, sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Je suis en Inde, dans les rues, je ris du matin au soir, comme si j'étais au spectacle.
Donc Petra, elle représente un peu l'espoir, en fait. Je sais pas, elle a un côté Mais comment garder l'espoir quand on est ainsi enfermé?
Oui, elle fait en sorte de tenir. Et finalement, enfin, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, sur l'enfermement, je me suis dit, qu'est-ce qui nous reste? Si on est enfermé, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste nos souvenirs. Donc, elle se promène, en fait, dans sa tête, dans ses souvenirs, dans ses histoires. Et puis, moi, j'ai voulu jouer le jeu vraiment en me disant, si tu étais enfermé comme elle, qu'est-ce qui te resterait comme vrai mot enregistré dans ta tête? Et je me suis rendu compte avec beaucoup de misère que pas grand-chose, notamment en littérature. Je connais très peu de poèmes par cœur, je connais pas de passages de romans par cœur. Et ce que j'ai par contre dans la tête, c'est un disque dur de paroles, de chansons françaises. Donc j'ai joué le jeu pour de vrai en prenant... comme si j'étais Petra, d'ailleurs je suis très proche de Petra, on ne va pas se faire raconter des histoires. C'est vraiment ce que j'aurais dans la tête pour me raccrocher, donc soit des divagations comme là, ce que vous venez de lire sur sa vie d'avant, soit les paroles de chansons, et c'est vraiment les mots, les souvenirs et la nostalgie de la liberté qui l'a... Elle fait en sorte de tenir le coup, mais c'est aussi ce qu'on lit dans tous les livres, dans tous les romans de camp ou de prison. Les gens veulent tenir le coup et essayent de s'accrocher à ce qui les tient. La plupart du temps, c'est ça, c'est ce qu'ils ont dans la tête ou l'art. On sait très bien que dans les camps, il y a des types qui... Il y a des types qu'on reproduit à un opéra, il y a un type qui réécrivait ou qui reconstituait la recherche du temps perdu avec des dessins en couleur, il y en a d'autres, enfin, c'est une façon de rester des humains et de tenir le choc.
Mm-hmm. Effectivement, elle dit qu'elle traduisait, donc c'est ça qui est un peu personnel. Et puis, je crois qu'elle dit aussi qu'elle aimait bien accompagner des auteurs en province.
Oui, après, moi, j'ai joué un petit peu...
Pour rencontrer du public, vous voyez.
Moi, je ne suis pas traductrice, mais en fait, j'ai... Souvent, enfin, moi, ce que je fais, c'est que je décale. C'est-à-dire, quand je ne veux pas vraiment... On prend tous, enfin, peut-être pas tous, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui récupèrent des petits trucs de leur vie à eux ou de leurs copains, de leur famille, de leurs expériences. Et puis, on les met dans une espèce de shaker, robot, et hop, et ça ressort et on décale un tout petit peu. Donc là, elle n'est pas écrivaine, elle est traductrice. Parce que j'avais aussi envie de raconter un petit peu certains petits souvenirs, effectivement, qui me sont chers.
D'accord. Alors, autre personnage qui, je pense, peut-être ne vous ressemble pas beaucoup, c'est Constance, donc carrément le personne qui a reçu une éducation très pieuse et qui ne connaît pas ce monde de chanteurs.
Constance est une jeune religieuse, très jeune femme, a priori, qui ne connaît rien de la vie, en fait. Et donc, elle fait mea culpa parce que se dire je suis sur un mauvais chemin. Je traîne dans la vie intime de cette femme à l'esprit perdu, comme un cochon se roule dans la boue des misères. Je suce sa moelle, ses restes, les lambeaux de son existence. Les paroles du nouveau chanteur me perforent le cœur. Mon Dieu, j'enrage de ne pas pouvoir enregistrer les mots et tout apprendre par cœur comme des psaumes. Je voudrais les réciter la nuit dans le noir, les entendre souffler de ma bouche et qu'ils restent en apesanteur dans le silence, juste pour le plaisir des sons. Je commence doucement à saisir l'ampleur de cette beauté. Plus je comprends les couplets et les refrains, plus je sens la corde se serrer à mon cou. Quand je ferme les yeux, je vois passer des îles, des couples enlacés, des tables pleines de victuailles et de vin, des collines embrasées, des femmes provocantes et des hommes qui pleurent à genoux.
Alors donc, on voit que donc, notre amie Constance, elle va se laisser un peu apaisée, éprouvoisée par son ennemi. Est-ce que vous pouvez nous parler des combats intérieurs de la jeune vierge?
Oui, bah Constance, donc c'est la jeune gardienne, elle est responsable du couloir, le fameux couloir où est Petra, elle est censée être une surveillante, quoi. Et puis un jour, elle entre dans la cellule de Petra, qui est en train de murmurer ses paroles de chanson, et elle est captée par ces mots, et elle tombe dans le chaudron magique, elle commence à être titillée, émue, et elle connaît que ce monde froid, terrible, sans aucune émotion, sans aucun mélange de quoi que ce soit, et tout ça. Alors au début, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, moi j'en avais besoin de la Constance pour faire la messagère, mais je ne l'aimais pas, elle m'agaçait, comme Petra d'ailleurs. Et petit à petit, je me suis mis vraiment à l'aimer beaucoup, parce que finalement, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'éveille, qui est complètement fermé, muré, cimenté par une religion extrémiste, et puis qui découvre par les mots, l'émotion, la vie, alors à toute petite dose, et en même temps qui est dans une faute terrible, parce qu'elle sait très bien qu'elle est en train de commettre une immense faute, qu'elle risque gros, très gros, qu'elle peut être punie, et puis elle a sa foi, elle est très sincère dans sa foi, Constance, donc c'est pas quelqu'un qui dit... Au fil du roman, qui va dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries, j'arrête tout, je suis plus croyante ». Pas du tout. Elle reste, et je voulais absolument qu'elle reste une croyante sincère, mais qu'elle dévie, mais qu'elle garde sa foi pure, entre guillemets, entre elle et Dieu, et finalement qu'elle nous montre qu'on peut très bien être un grand croyant sans être un esprit fermé. Donc petit à petit, elles se rapprochent. Ce que j'aimais aussi au début, c'est qu'elles ont une relation quasiment sadomaso. Ça, c'est la première fois que j'arrivais à écrire un truc un peu comme ça, un peu malsain, un peu vraiment ouais, un peu pervers. Elles ont un jeu pervers toutes les deux. Elles se font peur, elles se font croire des trucs pour tenir un peu le pouvoir, le jeu. Et puis il y a un moment où elles se rencontrent quand même, donc c'est pareil, c'est aussi la rencontre de deux ennemis qui finalement arrivent à s'apprivoiser et tout doucement et à se connaître un petit peu.
Oui, surtout qu'en fait au début elles se parlent pas du tout. Elles ne communiquent sans parler.
Ouais. Elles peuvent pas se parler, donc elles n'ont pas le droit de se parler, donc elles parlent en... C'est là que je décris cette scène de marchandage avec les doigts là, comme si on était au souk, en train de, ou avec deux personnes qui parlent pas la même langue, mais en fait elles ne se parlent que quand, enfin parler c'est un grand mot, mais que quand Petra murmure les paroles de chanson. C'est une façon de se parler, surtout que petit à petit, pour se protéger l'une et l'autre, quand elles murmurent les choses, elles se mettent très très près. Donc petit à petit, il y a aussi un rapport un peu corporel qui s'établit entre elles. Et petit à petit, je pense que Petra, elle est aussi... Enfin, je pense, je sais. Je sais parce que je l'ai appris. Petra, de plus en plus, elle est aussi touchée par sa jeunesse. Parce qu'elle a quand même une fille qui est un peu grande. Donc au bout d'un moment, elle se dit, mais cette pauvre fille, elle n'est pas seulement une atroce gardienne. Voilà, elle est aussi une jeune femme, et on voit à quel point cette jeune femme est aussi victime du système. Elle est écrasée par ce système.
Donc c'est vraiment, enfin, c'est un livre sur le pouvoir des mots, on l'a vu. Hein.
Oui.
C'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur.
Bah oui, parce que quand on voit que tant de livres sont, et encore beaucoup plus ces derniers temps, censurés, écartés, voilà, ça fait peur, ça aussi, ça fait très très peur. Et je pense qu'il y a... Pour moi, c'est un refuge, comme Petra, en fait. Moi, quand je plonge dans un livre, j'oublie absolument tout, je peux être dans la pire des galères, j'oublie directement si le livre me plaît. Et c'est vraiment une liberté qu'il faut, qu'il faut protéger le plus possible. Donc, exactement comme Petra, à un moment qui dit « j'ai pas été active, je suis pas militante, je suis pas dans une association, je suis pas... je suis comme elle. Donc la seule façon pour m'absoudre de n'être pas dans une action concrète, c'était peut-être d'écrire. Voilà, j'ai beaucoup été inspirée aussi par... j'ai lu un monsieur turc qui s'appelle Ahmet Altan, qui est resté 7 ans en prison. Il était romancier, mais aussi journaliste. Et il s'est retrouvé dans les geôles de Erdogan. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Je ne reverrai plus ce monde ». Bon, heureusement, il est sorti, donc il a revu ce monde. Mais le livre est magnifique parce que... il est d'un courage fou. Bon, lui, c'est son histoire vraie. Hein. Mais il raconte plein de petites anecdotes comme ça. Mais notamment, à un moment, il dit, il est en prison, il va à la bibliothèque et il veut tel livre. Et le type, le bibliothécaire, lui répond, ici, on n'a pas beaucoup de livres, mais on a plein d'écrivains dans les couloirs. Cette anecdote. Et il raconte ça avec un humour. Enfin, le mec, il est resté 6 ans en prison. Il arrive encore à être drôle en racontant cette scène. Donc, c'est aussi un hommage, d'une certaine façon. Je voulais aussi rendre hommage à toute cette littérature-là et à tous ces écrivains qui... du jour au lendemain, peuvent se retrouver en tôle ou plus édités, ou livres brûlés, ou livres sortis de la bibliothèque, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis en ce moment, pour des livres complètement... ça paraît sidérant, mais bon, tout ça aussi, c'est très inquiétant.
Alors, il y a un troisième personnage. C'est l'homme qui ne répond pas.
Ouais.
Bon, donc, votre ami, donc.
Tu as écrit ce matin.
D'accord, il a répondu.
Non, pas encore. Il a répondu.
En fait, on sait depuis le début qu'il est emprisonné parce qu'homosexuel. Sa réaction, donc, aux lettres de Petra se fait attendre.
Bonne cause, il ne la reçoit pas.
On ne va peut-être pas dévoiler trop ce qui se passe. Mais bon, elle a peut-être un peu l'impression qu'il accepte sa condition, quoi, qu'il est un peu passif. Et donc, ça rebondit un petit peu sur, face à la tyrannie, justement, il y a ceux qui se taisent et puis il y a ceux qui résistent. Donc, qu'est-ce qui fait que, voilà...
Au début, elle est en colère contre lui parce que, en fait, ce type, le pauvre, il n'a rien choisi. Elle l'a juste repéré dans la cour derrière les barbelés, de l'autre côté. Donc, du côté
des hommes,
déjà, et des croyants homosexuels. Parce qu'il y a plein de cases dans ce camp. Et elle lui a trouvé une bonne tête. Bon, après, elle explique pourquoi c'est lui qu'elle a choisi. Mais en fait, c'est une bouée de sauvetage, ce type. À un moment, elle dit d'ailleurs, je vous écris, mais en fait, je sais bien que je crie toute seule. C'est une façon de me raccrocher et d'écrire comment on écrirait un journal intime. Elle lui dit. Et en plus, comme elle voit bien qu'il ne répond pas... donc c'est à la fois c'est la bouée de sauvetage ce monsieur, et en même temps il devient très très côté un peu mystique chez dans ce personnage, parce que la jeune Constance elle au bout d'un moment elle va s'intéresser à lui aussi, et j'aimais beaucoup que ce destinataire des lettres reste une espèce d'auréole comme ça, qu'on ne sache pas trop. Et puis d'un seul coup, il est là. Mais je peux pas
non,
vous
non,
dire.
Oui, on peut pas raconter.
C'est un de mes seuls livres où je peux pas parler de la fin.
Oui, oui.
Non.
Non, ce serait dommage.
Ben, on va parler de la forme, alors, la forme du roman. On a déjà expliqué tout à l'heure pourquoi c'était la forme épistolaire qui avait prévalu.
Ouais.
Maintenant, il y a une forme aussi qui est assez courte. Hein. Je veux dire, il y a un choix qui est de faire un livre quand même très resserré.
Alors, ce n'est pas un choix.
Ce n'est pas un choix.
Non, parce que je ne sais pas écrire des livres longs.
Ah, d'accord.
Non, j'écris toujours des livres courts.
Ah, d'accord.
Ouais. Mais c'est mon format, ils sont tous petits comme ça. D'ailleurs, l'ami en question et un autre, et d'autres, plein d'autres, se foutent toujours de moi avec ça, parce que quand je leur dis, ah, ça y est, j'ai 35 pages à 4, nanana, ils me disent, ah bah c'est bon, t'as presque fini. On se moque toujours de moi avec ça. Mais moi, c'est le format qui me convient bien. Après, depuis le début, je voulais écrire un roman épistolaire, parce que c'est vraiment avec ça que je pense maintenant que j'ai appris à écrire avec ça. J'écrivais tout le temps des lettres quand j'étais jeune. Mon arrière-grand-mère, la fameuse, là, m'appelait Madame de Sévigné pour se foutre de moi. Et donc j'ai fait mes gammes avec ça, je pense. Donc je voulais absolument écrire un roman épistolaire. Je ne sais pas pourquoi il est venu si tard, d'ailleurs. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la lettre et la petite Constance, elle répond par une espèce de prière. Donc, ce n'est pas un vrai roman épistolaire. Et en fait, ce n'est pas si facile que ça de faire avancer une histoire avec des lettres. Surtout quand on écrit à un Gus qui ne répond pas d'accord, mais qui vit à peu près la même chose. C'est assez compliqué de faire avancer une situation... avec des lettres. Mais ça, j'avais pas prévu avant.
D'accord.
Oui. Bon, ce temps, c'est très utile, effectivement. Parce que
bah oui.
Ces cas de conscience, c'est entrecoupé de chapitres où Constance parle et se pose des questions, effectivement, sur qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qui va lui arriver.
Et puis, elle fait avancer, c'est elle qui fait avancer l'histoire.
Oui, elle fait avancer l'histoire. Mmh.
Alors, il y a aussi beaucoup de poésie dans la forme, hein. C'est un style qui vous plaît.
Oui, moi j'adore la poésie, j'en lis pas mal, j'en lis de plus en plus. Maintenant je connais aussi des poètes, des jeunes poètes, donc c'est très intéressant de rencontrer comme ça la jeune poésie vivante. Moi j'ai beaucoup étudié les grands poètes voilà, à la fac et tout ça. Mais j'aime bien essayer de mettre de la poésie dans l'écriture du roman. Et puis là, il y a aussi le livre est aussi porté par la poésie des paroles de.
Ça permet justement qu'elles soient moins obscures, que ce soit moins. Je veux dire, ça permet de supporter
que ça se mélange,
cette ambiguïté.
Ah, aussi, oui, que ce soit moins dur, que l'ambiance soit moins dure. Oui, sûrement. Bah, de toute façon, il n'y a que la poésie qui peut nous sauver.
Il y a des choses sucrées aussi, des bois d'été.
Oui, en fait, c'est très noir, mais je vous jure, il y a de la lumière.
Il n'est pas déprimant.
Il n'est pas déprimant.
Pas trop déprimant.
Non, il est
agréable. Ça va, ça.
La fin,
c'était déprimant à écrire, ça je vous le dis.
Ah oui, d'accord.
Mais à lire, on ne l'a pas dit.
Il n'est pas déprimant. Alors, on a dit qu'on ne raconterait pas la fin du roman, parce que c'est quand même, il y a quand même un certain suspense. Hein, on se demande comment ça va se passer. Donc, votre choix, c'est de laisser la liberté au lecteur d'inventer un peu ce qui va se passer, puisqu'on ne sait pas.
J'aime bien. En fait, j'aime bien couper, moi. J'aime bien couper l'herbe sous le pied du lecteur. Alors, soit c'est une façon de ne pas savoir finir. Il y a très longtemps, pour le premier roman, il y a une toute jeune fille de 15 ans qui m'a écrit en me disant « Finalement, vous ne l'avez pas fait mourir, votre vieille, dans votre livre. Ah. » Alors, sur le coup, je dis « Bah... » Et en fait, elle avait raison. C'est-à-dire que à la fin de juste avant, la mort ne s'effectue pas. On va pas jusqu'au bout. Et j'avais trouvé ça génial qu'une gamine de 15 ans me parce que moi je n'avais même pas pensé, hein. Donc voilà, j'aime pas oui, j'aime bien que les gens s'imaginent une suite, une fin. C'est pas à moi de leur imposer quelque chose. Et il y a pas très longtemps, avant Chambéry, au festival, je suis allée en prison. à Bourg-en-Bresse.
Ah oui, la
en centre de.
Ils ont un centre,
c'est centre de détention.
Ils ont un comité de lecture du festival. Oui.
C'est pas des petits vols, des portefeuilles. C'est, donc c'est pas une maison d'arrêt. Je crois que je connais pas bien la différence. Enfin bref. Et on a eu 2 heures d'échange avec ces prisonniers qui avaient super bien travaillé avec leur prof de français. Ils avaient lu tous mes livres. Hein, j'étais pâtée. Et on a eu vraiment un très bon échange. Et ils étaient marrants parce qu'il y en a plein à la fin qui m'ont dit « Non mais madame, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous laisser avec cette fin-là comme ça. On sait pas ce qui se passe. C'est horrible. Il faut absolument écrire la suite. » Ouais, ils étaient pas contents. Non. C'était pas du tout
compliqué. Bon, les détenus n'ont pas.
Mais j'ai vécu une expérience. Ouais. Comment ?
Parce qu'ils ont envie de s'évader, eux aussi.
Ah oui, ça leur a parlé, le livre.
Oui, peut-être que oui. Voilà.
Et il y a un jeune homme qui est. Parce qu'à la fin, il m'avait prévu un petit tête-à-tête, 2 minutes. Ils avaient chacun un exemplaire. La prison leur avait acheté un exemplaire. Donc je signais leur exemplaire. Et il y a un tout jeune homme qui est venu s'asseoir en face de moi. Et qui m'a dit, ça m'a quand même scotché, il m'a dit, vous savez, madame, Constance, c'est moi. Et alors là, je suis restée. Il m'a fait son Flaubert. Constance, c'est moi. Avant, j'étais complètement enfermée dans la religion, bouchée, ça m'a fait faire plein de conneries. Et maintenant, je commence tout doucement. Mais il me dit, ça m'a fait tellement bizarre de lire cette jeune fille, et de me sentir complètement comme si vous écriviez pour moi.
Et c'est une libération, quoi.
Ça m'a beaucoup touchée, et j'ai trouvé ça super courageux que ce jeune homme ose se dévoiler comme ça, dans cette tout petit entretien, parce qu'il y avait des gens autour, hein, on n'était pas dans un... Voilà, on peut avoir ce genre de rencontres et de réactions avec un livre, c'est...
En exergue du roman, vous le dédicacez à nos enfants si courageux de grandir dans un monde de fous. Je voulais savoir si vous aviez l'intention de faire réagir tout spécifiquement justement ces jeunes générations.
Bah, je pensais beaucoup à eux, ouais, en écrivant ce livre, parce que l'angoisse, elle est aussi de laisser ce qui vient derrière, quoi. Mm-hmm. Donc, plein de fois, je me suis dit, avec ce livre, je me suis dit, t'as pas le bon axe, c'est pas ça qui fait peur, c'est l'écologie, c'est... Bon, finalement, je suis restée sur mon idée parce que c'est là-dessus que j'avais envie d'écrire. Mais c'est vrai, moi, quand je vois ma grande fille et mon fils, je suis pas très optimiste pour eux. Donc, j'avais envie de leur faire un petit clin d'œil, de débrouillez-vous bien, les gars.
Et sur un public un peu plus large, comment, quand vous avez des rencontres comme ça, vous avez des gens, ça les secoue, ça les fait réagir?
Ouais, on a des bonnes discussions. J'ai eu des remarques parfois sur le choix de la religion choisi pour le livre. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais voilà, pourquoi vous avez choisi cette religion-là? Alors, souvent, je réponds que, en fait, je voulais parler de l'extrémisme et du totalitarisme, et que j'aurais pu tout à fait choisir un truc politique. J'aurais pu choisir, un camp de Ouïghours en Chine. J'aurais pu choisir un prisonnier politique en Égypte. J'aurais pu choisir, plein de choses différentes, mais j'ai choisi ça à cause de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire la source de la colère qui m'avait un peu réveillée. Et aussi, je me suis rendu compte quand même que même si je venais d'une famille complètement athée jusqu'au bout des doigts de pied, j'avais quand même cette culture-là. Et j'avais quand même... La petite chanson, finalement, j'ai trouvé assez vite la façon dont elle pense et parle et s'adresse à Dieu, Constance. Oui. Et il y a plein de gens croyants qui m'ont dit que c'était assez juste. J'avais du bol parce que mon éditrice était croyante, l'est toujours. Et donc, et je voulais surtout pas être... irrévérencieuse ou indélicate ou... Et ça aussi, j'ai eu des discussions intéressantes avec des gens qui m'ont dit non, mais en fait, on n'a pas été heurté.
D'accord, il n'y a pas de gens qui ont dit, oh là là, mais ça, il faut le brûler ce livre. Enfin...
Non. Après, je ne suis pas allée. Peut-être que dans certains endroits.
Vous avez été agressé.
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais le livre n'a pas eu un succès si retentissant que pour m'attirer. Non, je pense que. Voilà, j'ai eu surtout les petites discussions, c'était sur là-dessus.
D'accord.
On va poser la question.
Peut-être,
public,
oui, que ce serait intéressant de savoir.
C'est intéressant si de savoir.
Des questions aussi, des réactions au livre ou.
Avez-vous des questions à poser?
Petra, elle chante pour elle-même, mais elle chante surtout pour faire évoluer Constance, je trouve, dans le livre.
Au début, elle chante pour elle-même, mais quand elle voit que ça prend et que ça lui donne du pouvoir, il y a ce moment où elle dit « Je me suis rendu compte que j'étais riche » avec toutes ces paroles de chansons. Oui, après, c'est une manipulation. Et elle construit un programme de chansons comme si elle construisait un programme de cours. Parce qu'il faut que ça dure. C'est un peu comme Scheherazade, il faut continuer les histoires pour que ça circule. Donc elle, d'abord, ça lui fait plaisir, mais aussi, c'est utile pour son business.
Avez-vous des questions?
On peut même extrapoler en dehors du livre, au contexte.
Oui, ça peut être d'autres questions politiques.
Est-ce que vous êtes sur une autre piste du livre?
Je suis sur une autre piste. Pour la première fois, j'ai deux pistes dans la tête et du coup, je sais pas ce que je vais faire. Ça me. Donc il va falloir que je choisisse, je pense, parce que je serais pas capable de faire d'écrire deux livres de front. T'as déjà écrit deux livres de front, toi? Ouais. Bon, alors je vais demander. est-ce qu'on peut séparer le cerveau en deux pour. Mais j'aimerais bien. Ouais, j'ai deux pistes donc celle-là qui n'était pas du tout ancrée depuis longtemps. Mais là, il faut que je m'y mette. Je traîne. Je traîne. Mais c'est terrible ce que je traîne. Les écrivains, souvent, le racontent qu'ils s'inventent plein de raisons pour pas y aller, pour pas commencer.
Est-ce que vous êtes encore habité par vos personnages précédents ou vous les avez
mis sur papier? Je les garde. Je trouve qu'il y a un truc avec les personnages qui est très très fort. Pour moi, c'est une espèce de famille de fantômes parallèles, de nécropole, mais avec des gens. Pour moi, c'est des vrais gens. C'est très bizarre. Je les connais. C'est très étonnant le rapport aux personnages. Comme si c'était des vraies personnes, quoi. D'ailleurs, des fois, on se demande même comment ça se fait qu'ils nous appellent pas, qu'on n'a pas de nouvelles.
Tu réponds pas aux lettres, en plus.
Ouais. Pour mon premier roman, là, pourtant, le personnage, c'est mon arrière-grand-mère. Pour de vrai, vraiment, je raconte sa vie à elle, à Juliette. Et un jour, j'avais fait plein de rencontres, notamment dans sa région, en Dordogne. Il y a une dame très gentille qui m'envoie une lettre chez moi avec une photo de Juliette. Parce qu'elle était la cousine de Tartempion, éloignée, enfin bref. Donc c'est une photo de Juliette que je n'avais pas. Or, moi, je pensais évidemment être la détentrice de l'ensemble des photos de Juliette qui existaient. Et donc j'ouvre la lettre, dans mon entrée, je sors la photo et dans ma tête, je dis « Ah, c'est sympa, on m'envoie une photo de mon personnage. » C'est quand même dingue. J'ai transféré. Non, on m'envoie juste une photo de mon arrière-grand-mère. Ça voulait dire, enfin, pour moi, elle était vraiment passée de l'autre côté.
Côté fiction.
Titiana. Oui, à propos du ton de Petra, vous avez tout de suite trouvé le ton. Moi, j'ai été frappée par le style de la première lettre. Je trouvais que c'était un style très élégant, très épuré, très pas précieux. Bon, on vous appelait Madame Sévigné, c'est ça que vous étiez. Mais vous l'avez trouvé facilement, ce style très classique.
Ouais,
ça change d'ailleurs.
Un petit peu, oui.
Un petit peu.
Vous hein. avez raison.
C'est-à-dire qu'au début, on rentre vraiment dans la lettre, la missive, elle le vous voit.
Elle le vous voit toujours.
Oui, c'est vrai.
Elle le vous voit jusqu'au bout. C'est vrai que petit à petit, elle se relâche un peu.
Elle se relâche.
Parce qu'elle se détend et puis oui. elle se confie de plus en plus. Et puis, au début, elle croit qu'il va recevoir tout de suite. Effectivement, elle a ce ton très... c'est vrai, un peu classique, un peu... C'est aussi le cher ami qui...
oui, c'est ça.
Qui donne ce ton, et je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait comme ça.
Oui, je me suis...
Mais moi, c'est venu comme ça, direct.
Et alors, du coup, à vous entendre, je me suis dit, c'est vrai que Petra, elle écrit parce que les mots, ça lui permet de... Vous l'avez dit, elle écrit un peu pour elle aussi, c'est quand même pas un journal intime. Et elle, on dirait qu'elle s'écoute écrire, en fait. C'est un plaisir pour elle, ces mots qu'elle écrit.
Oui, ça lui fait du baume au cœur, ça l'encourage. Mais j'aimais bien aussi ce côté un tout petit peu suranné.
Oui, voilà.
Un tout petit peu comme ça. Et en fait, j'aime vachement ça.
Ouais.
dans le côté épistolaire. Oui. Il se trouve que j'écris, je corresponds avec certains écrivains, notamment certaines plus âgées que moi. Et j'adore le truc. Mmh. Chère Fanny, blablabla. Mmh. Et à chaque fois, je suis époustouflée. C'est peut-être ça qui m'a...
On le sent, hein.
Qui m'a tapé dans l'oreille.
Et les chansons aussi, elles sont venues...
Les chansons...
Ouais. Accompagnées, oui. Parce qu'il y a une progression.
Je voulais faire cet ordre-là. Enfin, j'ai décidé de faire cet ordre-là. Ferré, Brel, Barbara, Higelin. Et après, en fait, selon la lettre que j'écrivais, il y a la chanson qui me tombait. Ouais. Mmh. Je choisissais celle que vraiment je connais bien par cœur. D'ailleurs, je n'ai pas. C'est seulement à la fin que mon éditrice m'a dit non, quand même, Fanny, il va falloir vérifier si les citations sont bonnes. Franchement, il y avait peut-être deux erreurs, un truc comme ça, mais sinon, c'était bon parce que j'avais choisi vraiment ce que je connaissais très bien et ce qui me tenait le plus. À cœur, mais finalement, ça venait tout seul dans l'écriture. Mais en fait, les chansons me servaient aussi. Elles me servaient à construire
la lettre. Et à éduquer Constance aussi.
À éduquer Constance et à construire ma lettre et à faire avancer le... Mais j'ai vraiment un amour fou pour ces quatre...
Les textes sont bien choisis.
Donc, c'est émaillé de temps en temps de paroles de chanson.
Et ça aussi, c'était sympa. Il y a plein de lecteurs qui m'ont dit « Ah, grâce à ça, ton livre, à chaque fois, je suis allée réécouter les chansons à chaque chapitre. » Vous avez d'autres questions ?
Moi, je veux bien que tu nous as parlé du rapport que tu as avec tes personnages. Tu nous parles du rapport que tu entretiens avec l'écriture en général, de la place qu'elle a. Est-ce que c'est toujours une complice, l'écriture, ou parfois est-ce que...
Souvent, alors moi, l'écriture, ça me fait peur, très peur. C'est pour ça que je trouve toujours
un prétexte,
un lave-vaisselle à vider, un truc à faire avant de...
Ah oui,
plein de prétextes. Mais en même temps, j'y vais toujours, j'y retourne toujours. Donc, c'est quand même un grand plaisir. Mais c'est vrai que je me rends compte que c'est pas plus facile, pas pour moi, hein, c'est pas plus facile au quatrième roman, au cinquième roman. J'ai toujours très très peur de produire une énorme bouse qui n'a aucun intérêt ni aucun sens. J'ai besoin d'être rassurée et je mets très longtemps. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup, j'aime pas me lancer... Je trouve qu'il y a un côté dans l'écriture où on est au bord de la falaise et il faut se jeter, ça j'aime pas du tout. En revanche, quand on a déjà quand même la matière à peu près avancée, moi ce que j'adore, c'est fignoler. Ça, j'adore ça. Mm-hmm. Reprendre, mais jusqu'à... Enfin, ce truc, je l'ai repris. Enfin, il y a un moment, même, on a la nausée. Enfin, franchement, mm-hmm. on ouvre le truc, j'en peux plus de ce truc, je le supporte plus. Et finalement, on le peaufine quand même jusqu'au bout. Voilà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail de ciselage de la fin, phrase par phrase, vraiment jusque... Et encore avec l'éditrice, et encore avec le correcteur, jusqu'à la fin. J'ai eu un correcteur magnifique sur ce livre, qui m'a dit en gros, ma petite Fanny, vos virgules, c'est n'importe quoi, vos points-virgules, c'est n'importe quoi, vous ne savez pas faire. Ok, Jean-Claude, faites-moi voir alors. Et c'était super ce qu'il a fait, Jean-Claude. Et ça me dérange pas du tout. Tout ce travail-là me passionne. Voilà, ce qui fait très peur, c'est de ne pas savoir, en fait. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je demande à un auteur, bah, comme Pénac, en fait, le coup de Pénac, c'était du hasard de Pizzaiolo, mais après, je l'ai reproduit une fois que j'avais un peu des copains dans le circuit. Pour les notes de la mousson, c'est le fameux Omeg qui m'a aidé à travailler le livre sur l'Inde, alors qu'il n'était pas allé en Inde. Pour le recueil de nouvelles, c'est Hélène Gestern qui m'a fait un travail de carrément d'éditrice. Et pour ce livre-là, c'est Mackenzie Orsel, qui est un très grand ami, un grand auteur haïtien, qui m'a vraiment vachement aidée. Donc je demande cette espèce d'adoubement dont je vous parlais tout à l'heure. Si quelqu'un que je respecte et que, pas forcément un méga, c'est pas le problème, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance dans le goût et dans le est-ce que ça marche, voilà. Mm-hmm. Est-ce que ça marche ou si on me dit vas-y, oui ça marche, t'as du boulot, il y a ça, mais ça fonctionne, après j'y vais. Mm-hmm. Et après, petit soldat, vaille que vaille, même galère incroyable, je continue et personne ne me fera lâcher mon truc. Je suis pas du tout têtue, tenace dans la vie. Je suis une vraie poule mouillée. Tu me dis on change de truc. Ouais, on change de truc, pas de problème. Mais pour le livre, je suis vraiment un sale taureau de je sais pas quoi. Je suis... on ne me fera pas... Je peux très bien accepter les... Elle m'a demandé des changements importants, l'éditrice. Mais... ça passait, ça changeait pas la nature de mon livre, ça changeait pas mon projet. Et surtout, comme vous l'avez vu pour le livre, là, 10 ans pour le premier, finalement, bon, là, j'ai failli lâcher, mais après, j'ai galéré pour chaque livre. Mm-hmm. Et chaque livre, je ne peux pas me permettre de laisser ce texte. Il y a plein de gens qui gardent plein de textes dans les tiroirs, hein, et franchement, je suis très admirative de ça aussi, mais je sais pas, soit j'ai trop galéré donc je veux absolument arriver à mes fins, ou alors j'ai vraiment envie, oui, que le livre existe.
Mais vous demandez pour nous, hein, mieux, vous demandez conseil ou vous souhaitez vos livres en cours d'écriture ou à la fin?
Ça m'arrive en cours. Mais bien avancé quand même, parce que en plus quand je dérange quelqu'un, je vais pas le déranger pour 30 pages. Non, en général, c'est quand je pense que je suis au premier jet fini.
D'accord.
Au premier état, mais je l'ai déjà mais par exemple pour ce livre là Mackenzie Orsel en question s'est retrouvé autour d'une bière, il m'a pris le truc comme ça, il m'a dit haïtienne, parce qu'il appelle tout le monde haïtienne. C'est très beau, vraiment c'est très beau, vas-y, continue. Et après, il a ouvert le truc, il m'a dit, là je comprends pas, là ça va pas, là pourquoi elle fait ça, là c'est qui parle, je sais même pas, là, non, ok. Mais, c'est pas grave, parce qu'il m'avait donné le go.
On avait sélectionné Mackenzie Orsel aussi.
Ah oui. Bien, d'autres remarques ou On peut passer.
On termine pour passer. Ah oui, je ne vois pas de là.
Bonsoir. C'est la première fois que je me présente dans un événement de littérature. Et que je rencontre en visu André, une écrivaine. Et j'aimerais bien vous entendre parler du plaisir que vous avez d'écrire. En fait, vous disiez tout à l'heure que, encore, parce que vous le disiez depuis tout à l'heure, je suis encore en temps. Et vous disiez que vous adoriez peaufiner vos textes, que vous avez un moment dans l'élaboration de tout ça, que vous affectionnez tellement bien que vous arrivez très bien à l'exprimer, on le ressent. Mais après, vous disiez que vous galérez aussi. Alors, est-ce que c'est des bonnes galères finalement? Est-ce que ça fait partie de ce que vous disiez avant? Et est-ce que c'est
non, ce moment-là de peaufinage, c'est un vrai plaisir. Oui. C'est un vrai plaisir. Et moi, je passe aussi par un truc de lecture à voix haute.
Oui.
Pour moi, c'est un passage capital. C'est qu'au bout d'un moment, on le connaît trop, ce texte. On le connaît trop, donc on ne voit plus rien. Moi, je lis à voix haute, déjà moi toute seule. Et là, on entend quand ça va pas, quand la phrase elle est bancale, quand c'est pas bon, quand le mot ça retombe. Donc c'est un très très bon exercice. Et en plus, depuis quelques années, j'ai un chéri comédien, donc maintenant je l'utilise.
Ah.
Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce que là, il m'a fait le coup de lire en entier. Et moi, j'étais en face. Parce que même quand nous, on lit à voix haute, c'est pareil, on connaît tellement de livres. Et lui, il faisait une lecture à vue, ce que les comédiens appellent une lecture à vue. Donc, comme ça, ils lisent comme ça, parce qu'eux, ils savent faire. Et c'est pareil, lui, je sais que s'il bute, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas dans la phrase. Donc, je notais, et après, j'ai encore tout repris. Ce qui est fou, c'est ce truc de reprendre. Mais c'est à la fois une énorme galère et un énorme plaisir. C'est des sentiments et des impressions très partagées. Mais si on continue, c'est qu'on aime ça. Une fois, j'étais à la Maison de la Poésie avec un grand poète haïtien qui s'appelle Jean d'Amérique. On était tous les deux comme ça parce qu'on allait regarder un spectacle. Et il y a une copine à côté de nous qui se retourne et qui nous dit à tous les deux: mais en fait, je vous ai jamais demandé, vous aimez ça, écrire? Ça vous fait plaisir? Et là, Jean d'Amérique et moi, on ne s'est même pas regardé. Hein. On regardait la scène de la Maison de la Poésie, et tous les deux, en même temps, on a fait non. J'ai trouvé ça dingue. Parce que lui, moi je le savais, mais lui, je pensais qu'il aimait, je pensais qu'il aimait écrire. Non, quand même, on a des moments de contentement vraiment forts. Quand on sent que ça prend, quand on sent qu'on a trouvé le truc qui va faire que l'histoire va pouvoir se dérouler, il y a des moments de grande joie où, je sais pas moi, quand j'ai trouvé le coup des paroles de chanson, moi j'étais toute, je suis rentrée chez moi, j'étais toute frétillante, hyper excitée. Voilà, donc c'est quelques petits moments de grande joie pour beaucoup de beaucoup de drames.
Et est-ce que le roman se construit un peu à mesure? Vous savez déjà
moi je sais pas. Ça dépend des projets. Quand j'écris La vie de Juliette, je sais qu'elle va mourir et je connais toutes les étapes de sa vie. Donc ça c'est. Mais c'est l'invention, la grande invention romanesque, c'est particulièrement angoissant, je trouve. Et c'est très excitant, mais c'est pour moi, hein, il y a des gens qui sont plus à l'aise là-dedans. Il y a des gens qui détestent écrire avec un « je », par exemple. Ça leur fait trop peur. Moi, c'est le contraire. La première fois que j'ai écrit un roman à la troisième personne, mais j'avais l'impression que j'allais mourir à tous les chapitres. On est plus ou moins à l'aise et en même temps on se force. Enfin, moi j'avais envie vraiment de faire cette expérience de la troisième personne.
Ah oui.
Mais pareil, il y a une énorme difficulté.
On a un peu mal des fois.
Oui.
Merci.
Merci à vous. C'était des bons petits passages.
Bah non, non, je ne tape pas. Simone.
Donc on vous rappelle, vous pouvez, on vous rappelle que vous pouvez aller vous faire dédicacer votre livre ou l'acheter, et qu'il y a un buffet après, au coût de 10 euros. 10 euros.